en annonçant la parole de Dieu. Alors, c'est un culte familial. L'église n'est pas remplie, mais il y a quand même des enfants. Seulement, ils ne sont pas là. Moi, je ne les vois pas. Alors, je vais leur demander de venir devant. Ah, ils sont tous collés à un écran, je crois. Et ça, c'est le malheur des enfants. Alors, les enfants, je vous invite à venir devant avec vos Bibles, hein, j'avais prévenu, parce que je vais vous faire travailler. Alors, j'aurais peut-être dû envoyer les versets sur un par voie électronique. Parce que ce matin, ben, le culte ne peut pas se dérouler sans vous. Alors, Matine, je vois que tu es là, tiens. Tu dois savoir ce que ça veut dire. Il va falloir que tu cherches dans une Bible. Il y en a là, il y en a assez. Sinon, vous la partagez. Alors, vous êtes combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y en a deux qui auront un bonus. Alors, je distribue des versets à lire parce qu'il faudra... Quand je citerai votre référence, donc le verset que vous avez, il faudra venir au micro. Alors, si Timothée peut préparer un deuxième micro qui va. Pour que ça puisse être à la hauteur des enfants, qu'on ne change pas sans arrêt. Merci pour ton assistance, Christina. Voilà, donc là, c'est du bonus. Il y en a qui en auront deux. Alors seulement Raphaël, il est là, du coup tu te mets aux vidéos. Ouais, je pense, je ne m'inquiète pas. Alors ils sont en train de chercher et tout. Hein. C'est beau de les voir lire à l'école dans des livres, mais c'est encore plus beau de les voir lire dans la Bible à l'église. Hein? Ah, vas-y, tu peux mettre la première diapo qui va introduire le sujet. C'est super qu'il y ait de l'assistance intergénérationnelle. C'est super beau. Merci. Alors, Timothée, t'as un micro ? Il va ? Mieux que tout à l'heure, ouais. Bah, les piles, souvent, elles sont déchargées, donc... Ça va aller, Daniel ? J'en suis sûr que ça va aller. Voilà, alors je vais commencer, enfin vous l'avez lu déjà, vous avez eu assez de temps pour le lire. Voilà, ça va être le sujet de ce matin, parce que c'est un culte familial, donc on est tous ensemble, les adultes et les enfants, et donc on va parler des enfants et des adultes. Et Jésus, justement, un jour, il était avec ses disciples, et puis... Il y a des enfants qui voulaient venir voir Jésus. Vous connaissez l'histoire. Et puis les disciples, du haut de leur hauteur, ils se sont dit, mais machin, c'est beau là, qui vont casser les pieds à Jésus, mais ils vont nous déranger. Et, bah, écartez-vous les enfants. C'est pas pour vous Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord les enfants? Ben non, heureusement. Et Jésus... Dans Marc 10, 13, il y a quelqu'un qui peut le lire ? Alors, comme j'ai distribué comme ça, je ne sais pas qui l'a, mais il y a quelqu'un qui l'a. Alors, vas-y, Matine. Alors, Timothée, tu vas aller lui donner le micro ? Oui. Ben, faut qu'ils ou soit ils avancent, mais ça va, ils vont bouger sans arrêt, ou alors ils sont assis. Ouais, ça va les faire bouger. D'accord. Alors vas-y, Mathilde, je vais te tenir le micro. Vas-y.
Des gens lui amenèrent des petits enfants pour qu'il les touche, mais les petits disciples leur firent des reproches. Jésus a le en le voyant fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur parler les
Merci.
pareil.
C'est super, Mathilde. Bravo. Parce que c'est pas sa langue maternelle, hein, et ça fait pas longtemps qu'il apprend à lire. Bravo, Mathilde. Je vais le couper. Voilà. Voilà le contexte de l'histoire. Donc il y en a qui ont voulu amener des enfants à Jésus et les disciples, ils ont fait barrage. Et quelle a été la réaction de Jésus? Dans Marc 10, dans ma traduction, c'est Jésus indigné. Indigné. J'ai pris cette version-là dans l'évangile de Marc, parce que c'est lui qui a traduit de la façon la plus tranchante l'émotion qu'a ressenti Jésus quand ses propres disciples ont fait barrage au chemin des enfants vers Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, les enfants, que Jésus était indigné? Comment vous le comprenez? Ça veut dire quoi, être indigné? Vas-y, Daniel. Attends, viens.
Dire que bah c'est pas bien.
C'est pas bien. Est-ce que tu peux mimer quelqu'un qui est indigne? Un, deux. Ah, ça marche. Tu peux dire. Ou est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut l'aider, hein, qui peut mimer quelqu'un qui est indigné? Alors si chez les enfants ça marche pas. Il y a les ados, il y a les jeunes. Vous êtes concernés aussi. Hein. Est-ce que quelqu'un peut venir mimer, se mettre un peu dans la peau de Jésus et mimer son indignation ce jour-là? Vous n'êtes pas très courageux. Hein. Je ne vais quand même pas être obligé de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire indigné? Il faut quand même que les enfants arrivent à mettre une image sur ce texte. Tu veux? C'est choqué, oui. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Ah, vas-y. Ben oui. Qu'est-ce qui est marqué? Laissez venir à moi les petits-enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire sur le ton de l'indignation qu'a ressenti Jésus? Tu veux essayer? Est-ce que vous l'imaginez dans votre tête, mais que vous n'avez le droit de ne pas oser le faire? Vous avez le droit. Alors, qui l'imagine, mais n'ose pas? Je vous assure, je ne vais pas vous dire t'y vas quand même. Je vous le promets. Est-ce qu'il y a quatre? Tu l'imagines, Raphaël? Tu ne veux pas y aller? Ok, je comprends, hein, c'est normal. Alors, je vais m'adresser à la tranche d'âge supérieure. Est-ce que chez les jeunes ou les ados, il y a quelqu'un qui serait prêt à prendre le micro et à jouer cette réponse de Jésus avec indignation? Vous avez le droit d'ajouter un peu d'autres mots d'aujourd'hui, hein, pour bien traduire la chose. C'est ce que je dirais. Bon, alors, qui ? Ah, il y a Micheline. Alors, elle ne fait pas partie des jeunes, mais bon, on monte dans ce cas-là. Hein. Allez. Allez, vas-y, Micheline. Alors, ben, tu te mets là devant. Vas-y, Micheline.
Oh ! Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Oh, que ferai-je de ces disciples? Oh là là, combien de temps serai-je avec vous? Encore.
Merci, Micheline. On peut l'applaudir, hein? Bravo, Micheline. Elle a osé. Ben oui. Merci, Micheline. Jésus, il a été indigné. Parce qu'en fait, ses disciples, est-ce que vous avez l'impression qu'ils avaient compris quelque chose ? Ils avaient peut-être compris des choses, mais ils n'avaient pas tout compris. C'est sûr. Et Jésus a été indigné. Parce qu'il leur a appris que s'ils ne reçoivent pas le royaume de Dieu comme un enfant, eh bien, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Vous vous rendez compte, c'est pas rien ce qu'il a dit. Si on ne reçoit pas le royaume des cieux comme un enfant, on n'y entrera pas. Il n'a pas dit ça pour rire et pour faire plaisir aux enfants. Hein. C'est réel. Donc si on ne répond pas à ce critère, c'est pas pour nous. Ça vous choque ? On va avancer. De toute façon, on va être choqués ce matin. Hein. On va apprendre des choses. Hein. C'est sûr. Alors, cette première petite scène nous invite à nous poser deux questions. C'est quoi ? Être comme un petit enfant ? Et du coup, c'est quoi être comme un adulte ? Hein ? Alors, on va essayer de répondre à ces deux questions. Alors, on ne va pas faire de la psychologie, parce que c'est un culte familial, et de toute façon, je ne saurais pas. Donc, par contre, moi, j'aime bien observer. J'aime bien m'asseoir et observer. Et au lieu d'aller me poster dans Hasbrook, je me suis posté devant ma Bible, et j'ai cherché une histoire qui met en jeu enfant et adulte, et puis Dieu, pour voir les réactions des uns et des autres, les observer, et puis on va en tirer un enseignement ensemble. Hmm? Vous êtes d'accord avec ce petit programme ? Donc voilà ce qu'on va faire. Et pour introduire, on va regarder dans Luc 4, 24. Donc là, il va y avoir un petit peu de lecture, donc c'est sur une diapo et puis les enfants vont le lire en même temps.
Il y a toute cette série, donc il y a un enfant qui a 22 et 23.
Et tout lui rendait témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et il disait: n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz: fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum.
24 à 26.
Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut pas envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon.
Je crois que tu as mangé un verset de quelqu'un. Vas-y, bah, du coup, tu vas lire le 27.
Il a aussi plusieurs lépreux. Israël, du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien.
Merci. Ah, ils lisent bien, ça fait plaisir de les entendre lire la Bible, hein? Non? Voilà les paroles de Jésus. Ça introduit les choses, hein. Alors, tu reviens juste avant. Donc, on observe des adultes qui sont étonnés par les paroles de Jésus. Néanmoins, ils disent, bah, n'est-ce pas le fils de Joseph ? S'ils disent que c'est le fils de Joseph, ça veut dire qu'ils ne croient pas que c'est le fils de Dieu. Hein ? Et d'accord ? C'était le fils de Marie, mais ce n'était pas le fils de Joseph. Et ils sont étonnés parce qu'ils voient que ce qu'ils entendent de la bouche de Jésus, c'est bizarre pour l'instant, hein, en tant que fils de Joseph. Quelque part, ils ne croient pas, ils n'acceptent pas qu'il est fils de Dieu. Et un peu plus loin, tu passes à la diapo suivante, Jésus est en train de leur expliquer que ben, un prophète n'est pas accepté dans sa patrie. Et il leur fait découvrir que ce n'est pas nouveau. Et il va prononcer ces paroles qu'ils ne vont pas trop apprécier. C'est au temps où il y avait une famine, le ciel était fermé, vous connaissez cette histoire. Ben c'est même pas en Israël, ça n'a même pas été au profit d'Israël qu'il y a eu des miracles. C'était la veuve à Sarepta qui n'était pas sur le territoire d'Israël. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël. Le pays élu, la race élue. Mais ce n'est pas chez eux qu'il y a eu la guérison. C'est chez l'ennemi d'Israël, en Syrie, Naaman. Pourquoi ? Le terrain était meilleur ailleurs. Pas chez les adultes d'Israël. On va continuer. D'ailleurs, Jésus nous parle de Naaman, le Syrien. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Naaman, les enfants ? Oui ? Ben, on va regarder. Je compte sur toi, Michael. Voilà. Donc, tu cliques sur Histoire de Naaman. Donc, il y a la vidéo qui va sortir. Et il faut t'arranger pour la mettre sur cet écran-là parce qu'elle risque d'apparaître sur l'autre. Si, le lien, il fonctionne. Il faut peut-être appuyer sur Shift et cliquer en même temps. Alors, pendant ce temps-là, les enfants, vous connaissez l'histoire de Naaman ? Alors, qui la connaît ? Oui, et il n'y a pas Raphaël, les autres ? Naaman, qui avait la lèpre. Ça vous dit quelque chose ? Ah, c'est bon. Merci, Michael. Bon, ça ne fait rien si vous ne la connaissez pas. Vous allez l'entendre là. Donc, il faudrait qu'il y ait... Bon, je vais éteindre les lumières.
Syrienne remporte une guerre contre Israël. Naaman, commandant en chef syrien, rentre dans son pays avec de nombreux prisonniers, dont une petite fille qui sera au service de sa femme. Cet homme, fort et vaillant, est lépreux. La femme de Naaman est souvent silencieuse et triste, car elle sait que la lèpre est une terrible maladie contagieuse. La peau se recouvre lentement de taches blanches. Un matin, la petite servante, voyant sa maîtresse si triste, décide de lui parler.
« Oh, si seulement mon maître allait vers le prophète de Samarie, il le guérirait de sa lèpre. »«
Mon enfant, personne ne peut nous aider. »
Mais il disait, le prophète est un homme de Dieu, et rien n'est impossible à Dieu.
Aussitôt, la petite servante se met à expliquer comment Élisée, au nom de Dieu, guérit les malades. Tout en l'écoutant, la femme de Naaman s'écrie tout à coup.
« Nous devons en parler à mon mari. »
Quand Naaman rentre, la petite servante explique à nouveau.
Pourquoi n'irais-tu pas trouver le roi pour savoir ce qu'il en pense?
Je vais demander l'avis du roi.
Un serviteur introduit Naaman auprès du roi de Syrie.
Le général Naaman.
Après l'avoir écouté, le roi promet à Naaman d'écrire une lettre en sa faveur au roi d'Israël. En portant des présents, Naaman et ses serviteurs se mettent en route pour Israël. Naaman porte la lettre au roi d'Israël.
Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre.
Le roi d'Israël déchire ses vêtements.
Suis-je un dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi.
Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprend que le roi d'Israël a déchiré ses vêtements, il envoie dire au roi. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman et ses serviteurs arrivent donc chez Élisée. Le prophète lui fait dire par un messager.
« Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et tu seras guéri. »
En colère, Naaman s'en va. Naaman fait demi-tour avec fureur pour rentrer en Syrie.
Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pouvais-je pas m'y laver et devenir pur?
Mais ses serviteurs s'approchent.
Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? « Lave-toi et tu seras pur. »
Le général change d'avis et se dirige vers le Jourdain. Arrivé près des berges, sous le regard de ses serviteurs, Naaman enlève son riche manteau et plonge dans le Jourdain 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Dieu a guéri Naaman.
Elle est bien cette histoire, hein? Ouais, je vais remettre la lumière. Bon, voilà une histoire qui met en jeu un enfant, Dieu et des adultes. Alors maintenant, on va s'asseoir et puis on va les observer. On est d'accord? Alors, les enfants, je vais encore avoir besoin de vous, hein? Donc, qui est enfant dans l'histoire? Daniel? La petite fille. D'ailleurs, est-ce qu'on connaît son nom? Est-ce que vous avez entendu son prénom? Ben non. C'est la seule dont on ne sait pas le prénom. On ne sait pas son prénom. C'est pas dit, c'est pas écrit. C'est la petite servante de Naaman. Une petite fille. Hein? Et cette petite fille, qu'est-ce qu'elle fait chez Naaman? Pourquoi elle est là? Est-ce qu'elle est à sa maison? Daniel?
C'est pour dire à la reine qu'il y a un lépreux.
Alors, c'est pas tout à fait ça. Pourquoi elle est là? Est-ce qu'elle est dans sa maison?
Non.
Non.
Ah, c'est pour consoler la reine.
Non, je demande pas tout à fait pour ce qu'elle va faire. Mais pourquoi elle se trouve dans cette maison? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elle se trouve là?
Bah, c'est pour expliquer Dieu.
C'est vrai qu'elle va faire connaître Dieu. Mais est-ce qu'elle était dans sa maison?
Non.
Non. Pourquoi elle n'était pas dans sa maison?
Parce qu'il y avait eu une guerre et du coup, normalement, il l'avait rapportée comme prisonnière.
Voilà. Donc, elle était en fait prisonnière. Elle n'était pas dans sa maison, elle était en prison. Et oui. Bon, pas une prison avec des barreaux, mais n'empêche qu'elle était séquestrée chez Naaman. Elle ne pouvait plus rentrer chez elle, vous rendez compte? Elle ne pouvait plus retourner à sa maison. Elle était prisonnière chez l'ennemi. C'est bien ça? Ben non, hein. Mais
quand elle a appris que Naaman avait la lèpre, quelle a été sa réaction? Daniel?
Elle était triste.
Elle était triste. Et là, les adultes, je me tourne vers vous.
Si ça avait été un adulte dans la même situation, séquestré chez l'ennemi, qui voit l'ennemi frapper de la lèpre, à quoi penseriez-vous? Moi aussi, je l'entends. Ben ouais. C'est Dieu qui l'a frappé de la lèpre, parce qu'il m'a séquestré. Vous croyez pas? Je suis sûr qu'on aurait pensé ça. Et oh, le Seigneur, il va l'amener à la repentance. Il va devoir s'humilier devant Dieu pour peut-être trouver le chemin de la guérison. Vous croyez pas? Un enfant ne fait pas ça. Un enfant n'a pas cette réaction d'adulte. Cette petite fille, elle a été emmenée en captivité. Malgré cela, elle n'est pas amère. Elle n'a aucune envie de se venger. On est d'accord? Est-ce qu'un adulte aurait cette même réaction? Un adulte transformé par Dieu, c'est différent. Mais la nature d'un adulte, il ne ferait pas ça. On est d'accord? Donc cette petite fille, déjà, elle a une réaction d'un enfant. Et à rapprocher de l'introduction, hein, si vous ne, vous n'irez pas. Hein? C'est toujours à ça hein, qu'il faut le rapprocher. C'est le but. Donc ça, ce sont déjà des caractéristiques de la petite servante qui sont, qu'on lit peut-être comme ça et puis qu'on ne fait pas attention, mais si on réfléchit un peu plus loin, ben oui, un adulte à sa place, il n'aurait pas répandu ce parfum de l'amour de Dieu. D'ailleurs, j'ai envie de le rapprocher de d'autres paroles de Jésus. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Hein? Ça, c'est une réaction d'enfant. Quel autre? Bon, si elle bouge comme ça un petit peu, c'est pas trop grave. Une fois qu'elle fait pas de bruit. Hein? Bon, après, tu essaies de ne pas le faire sauter trop haut. D'accord? Alors, donc cette petite servante, elle ose quand même un sacré défi. Quand on rencontre une personne malade, est-ce qu'on ose lui dire qu'on connaît quelqu'un qui pourrait la guérir? Si c'était vous ou moi, à la place de la petite servante, parce qu'on ne sait pas son prénom, on aurait peut-être dit, si on avait, c'était quand même décidé à lui proposer une solution, tu sais, je connais un prophète et bon, faudrait le consulter, puis peut-être. Je crois qu'il y aurait un peut-être, non? Vous croyez pas? Je suis sûr qu'il y aurait un peut-être. Vous avez entendu, hein, cette vidéo, elle retranscrit exactement les paroles de la Bible. Et c'est pour ça que je l'ai choisie. La petite servante, elle fait, j'ai envie de dire sa pub, mais elle est sûre. Elle est sûre que Dieu peut quelque chose pour Naaman. Elle n'a pas émis un seul doute sur cette issue. Aucun doute. Oh, si Naaman pouvait aller voir en Samarie le prophète Élisée, il serait guéri de sa lèpre. Vous entendez cette foi d'enfant, sans hésitation. Elle est sûre que Dieu est la solution au problème de Naaman. Elle croit de tout son cœur. Alors l'histoire continue. Donc Naaman va voir son chef, le roi de Syrie. Le roi de Syrie, il est d'accord pour l'envoyer voir en territoire ennemi, territoire d'Israël. Alors il rédige une lettre. Et cette lettre, elle arrive forcément à son destinataire. Et c'est qui d'ailleurs qui a lu la lettre?
Le roi d'Israël.
Voilà, le roi d'Israël. Le roi d'Israël.
C'est un adulte ou un enfant?
Un adulte.
Un adulte.
Et ça se voit d'ailleurs à sa réaction. Il a réagi comment?
En colère.
Très
très en colère.
Très en colère. Et à quoi t'as vu qu'il était en colère?
Il criait, il levait les bras et en plus il a claqué la porte.
Ouais, exactement. Alors, Daniel, il a tout compris. C'est bien Daniel.
Eh oui,
il a claqué la porte. En plus, il a même déchiré ses vêtements. Vous vous rendez compte? Tellement il était en colère. Est-ce qu'il avait compris quelque chose? Les adultes, est-ce que vous avez l'impression qu'il avait compris quelque chose? Ben, c'est un adulte. Parce que les adultes, ben, ils ne comprennent pas toujours le plan de Dieu. Parce que le roi d'Israël, il savait que le roi de Syrie, c'était son ennemi. Hein? On est d'accord? Il n'y a pas de problème, on sait qui est ennemi. En plus, ce roi de Syrie, il était venu lui voler des personnes, des habitants, des citoyens. Il en avait fait ses prisonniers. Dans ses prisonniers, il y avait la petite servante. C'était un ennemi. Et voilà qu'il lui envoie un chef militaire qui est venu faire du mal dans son pays pour qu'il le guérisse. Ça fait gros quand même. Est-ce qu'il a vu les choses comme la petite servante? La petite servante, elle a vu son Dieu, qui est un Dieu d'amour, qui fait briller son soleil sur les justes comme sur les injustes et qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Et que le Dieu qui peut guérir un bon, il peut guérir aussi un mauvais. Mais le roi d'Israël ne voyait pas les choses du tout de cette façon-là. Pour lui, il a dit, il cherche des noises. Et c'est ça, les adultes, ils vont tout de suite chercher. Ils vont chercher à interpréter. Ils vont interpréter les choses d'après ce qu'ils croient, d'après ce qu'ils ont appris. Et donc, c'est compliqué. C'est forcément compliqué. Tu peux mettre la diapo suivante? Ah zut, il n'y a pas les cadres. J'avais mis des cadres, mais ils n'apparaissent pas. Bon, j'avais mis des cadres pour que ça ressorte mieux. Mais voilà, on a les attitudes des uns et des autres. Donc la petite servante, elle croit, tout simplement. On est d'accord? Elle croit que Naaman, il peut être guéri. Le roi d'Israël, il ne comprend rien. Il ne comprend rien au plan de Dieu. Naaman, on est d'accord, au début, comment il a réagi Naaman?
D'abord, il ne croyait pas trop.
Oui, et puis...
Après, il croyait.
Ouais. Et pourquoi il s'est mis à croire? Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé d'avis?
Que...
Il y a quelqu'un qui lui a parlé ?
Oui. Oui.
Un des serviteurs.
Ouais, ses serviteurs. Donc, oui.
Il lui a dit d'aller quelque part pour aller trois fois quelque sept fois quelque part et puis il serait guéri.
Ouais. Oui. Mais là tu confonds les deux serviteurs.
Ouais. Voilà, donc il y avait
Élisée qui a envoyé son serviteur pour dire à Naaman de se tremper, mais sur le coup Naaman franchement elle me trempait dans cette flotte, là, ce machin de boueux. Alors qu'il y a des super fleuves en Syrie, il y a bien mieux. Il était en colère. Et à quel moment il a changé d'avis? Tu l'as dit? Non, avant, quand ses serviteurs. Mais ses serviteurs, ils ont une attitude d'adulte ou une attitude d'enfant? D'enfant. D'ailleurs, quand ils se sont adressés à Naaman, ils ont dit « mon père ». Donc, ils s'étaient positionnés en enfant. Et grâce à ces enfants, entre guillemets, à ces serviteurs, à l'attitude d'enfant, Naaman a pu être guéri. S'il n'y avait pas eu ses serviteurs pour le rattraper, eh bien, il n'aurait pas été guéri. Vous vous rendez compte ? Il serait retourné chez lui, malade, toujours aussi lépreux. Il a encore fallu une attitude d'enfant pour récupérer ce mauvais comportement d'adulte. Alors, les serviteurs de Naaman, ben, ils ont compris avec la simplicité d'enfant. Élisée, lui, il a tout compris. Il a même deviné que le roi, pourquoi le roi il avait déchiré ses vêtements alors qu'il n'avait même pas vu la lettre. Mais lui, il est connecté à Dieu. Il a cette simplicité d'enfant envers Dieu. Alors, on regarde les attitudes. Donc, il y a la petite servante. C'est une adulte ou un enfant? Un enfant. Elle réagit bien ou pas bien? Bien. Les serviteurs de Naaman, ils ont une attitude d'enfant. Ils réagissent bien ou pas bien? Bien. Le roi d'Israël, c'est un adulte ou un enfant? Il réagit bien ou pas bien? Pas bien. Il ne comprend rien à l'œuvre de Dieu. Naaman, au début... Il écoute qui? Lui-même. L'adulte qu'il est. Et ensuite, il écoute qui? Ses serviteurs qui ont une attitude d'enfant. Quand il suit ce raisonnement, les choses s'arrangent. On est d'accord? Et Élisée, lui, il est connecté à Dieu. Tout va bien. Alors, qui est-ce qui a un problème? Les adultes ou les enfants? Ben, les adultes, en fait. Et c'est pas pour rien que Jésus a dit qu'ils ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que ces adultes, au comportement-là, ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. On est d'accord? Vous savez, les enfants, vous avez sûrement des jeux où il y a des pièces, vous savez, souvent les tout-petits, ils ont une maison, et puis sur le toit, sur les murs, il y a des trous avec certaines formes, et il faut trouver les objets qui vont rentrer dans les trous pour entrer dans la maison, qui ont la forme qu'il faut. Ben vous savez, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir la forme d'un enfant. Si on a la forme d'un adulte, ça passe pas. C'est ça. C'est la même chose. Vous me suivez? Donc, les adultes, ils ont un problème de compréhension des desseins de Dieu et ils ont un problème par rapport à la foi. C'est ce qui ressort, notre observation, hein. Et ça, c'est triste. Ça veut dire que si on reste comme ces adultes-là, on ne va pas réussir à entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne va pas passer. On n'a pas la forme qu'il faut. On va continuer notre réflexion en lisant Matthieu chapitre 13, verset 58. Il y a quelqu'un qui l'a. Vas-y. Matthieu 13. Oui, bon, bah, tu vas lire. Vas-y.
Il se rendit dans sa patrie et il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient : d'où lui viennent ses sagesses et ses miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ?
Il y a quelqu'un qui a 56. Hein.
Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc tout cela ?
Et cela les empêche de croire en Jésus. Jésus leur dit : un prophète est respecté par tout sauf dans la ville et dans sa maison. À Nazareth, Jésus ne peut pas faire beau. À ce moment-là, Hérode...
Attends, ne peut pas faire beaucoup.
C'est où ça ?
Ne peut pas faire beaucoup.
Ne peut pas faire beaucoup de miracles parce que les gens ne croient pas.
Merci Daniel.
Vous avez vu, encore une fois, les adultes du milieu où Jésus est issu ne croient pas en lui, ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, et à cause de ça, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Ça ne vous touche pas, ça ? Les miracles, le simple fait qu'il y ait des miracles, dépend de la foi des personnes. C'est ce qui va faire que Jésus va pouvoir opérer ou pas. C'est ce qui est marqué, hein. Or, l'adulte, il est souvent avec ses peut-être, avec ses doutes, avec ses représentations qui font qu'il ne comprend pas le plan de Dieu. Vous avez vu le roi d'Israël ? Pourtant, c'était quand même le roi d'Israël. Il n'a rien compris. Et là, Jésus a lui-même dit que si on ne croit pas, combien de fois Jésus n'a-t-il pas dit qu'il te soit fait selon ta foi ? Et si on n'a pas la foi d'un enfant, ben, il ne va rien se passer. Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. Il faut croire comme un enfant. Je vais terminer sur d'autres caractéristiques d'enfants. Dans Matthieu 7, 9 à 11, alors il y a quelqu'un qui doit l'avoir.
Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?
Donc là, on voit une caractéristique d'un enfant. L'enfant qui est décrit là, il est dans quelle position ? C'est lui qui fournit quelque chose à ses parents ou c'est les parents qui lui fournissent les bonnes choses ? Donc l'enfant, il dépend d'eux. L'enfant, il dépend de ses parents. Est-ce que nous sommes dans cette position de dépendance par rapport à Dieu ? Ou est-ce que c'est nous à la barre de notre vie ? Un enfant, il dépend de ses parents et c'est ses parents qui lui donnent. Est-ce qu'on est dans cette position par rapport à Dieu ? Proverbe 22:6. Qui est-ce qu'il l'a ? Proverbe 22:6.
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Merci.
Ça veut dire que l'enfant, il écoute l'instruction de ses parents. Est-ce qu'on écoute l'instruction que Dieu nous donne au travers de sa parole, dans nos moments personnels, au travers des prédications, au travers de paroles de connaissance, d'exhortation des uns et des autres? Est-ce qu'on écoute et est-ce qu'on obéit? C'est une caractéristique d'enfant. Écouter l'instruction. Si on ne le fait pas, on n'est pas comme un enfant. Donc un enfant, il est toujours prêt à apprendre de son père. Et nous devons être toujours prêts à apprendre de notre Père céleste. Dans Luc 10, 14, on l'a lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? Laissez venir à moi les petits-enfants. Ça veut dire que les enfants ne doivent pas avoir de frein, ne doivent pas avoir d'entrave. Oui ? Et là, je ne vais pas répéter ce que Pascal a prêché dimanche dernier par rapport à la liberté. Il l'a bien détaillé. On ne doit avoir aucune entrave qui nous empêche d'aller à Dieu. Et Pascal en a bien parlé la semaine dernière. Je ne vais pas le remettre, mais ouvrez une parenthèse dans votre mémoire. Nous devons être complètement libres d'aller vers notre Père. Parce qu'un enfant, il faut qu'il puisse aller vers ses parents. Il en a besoin. Et nous, nous sommes enfants de Dieu. Il faut que rien ne nous retienne pour aller à lui. Donc rien dans notre vie ne doit être un frein, ne doit nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Dans Proverbes 24, 21, là je ne l'ai pas mis, c'est tout petit. Mon fils, crains l'Éternel. C'est l'attitude d'un enfant. Il craint ses parents. Il a de la crainte pour ses parents. Est-ce qu'on craint Dieu ? Voyez, on a parcouru beaucoup de caractéristiques d'enfants. Et on doit ressembler à tout ça. On doit avoir toutes ces caractéristiques pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ce n'est pas des choses qu'on doit, des fruits qu'on doit faire pousser de nous-mêmes parce qu'on n'y arrivera pas. Mais l'Esprit Saint en nous doit nous amener à ressembler à ce modèle, sans lequel on ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. On va retenir tout ça? Les enfants, vous avez retenu? Il y en avait pour vous, il y en avait pour les adultes. Il faut qu'on retienne que Jésus, il veut vraiment qu'on ressemble à ces enfants-là. On va le retenir. Alors maintenant, on va courber nos fronts et on va demander au Seigneur de venir mettre en nous cette essence d'enfant, cette nature d'enfant pour pouvoir nous approcher de lui. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es vivant, Seigneur, et tu parles à nos cœurs. Et tu attends de nous une énorme simplicité. De toute façon, tu ne t'es pas révélé aux sages et aux intelligents, tu t'es révélé aux pauvres et aux pauvres en esprit, parce que les autres ne pouvaient pas te recevoir. Et Seigneur, fais de nous ces enfants qu'on a vus ce matin. Fais de nous ces personnes simples qui acceptent ta parole avec simplicité de cœur et qui t'obéissent et qui croient. Seigneur, fais ton œuvre en nous. Amen.